18h30, 19h, La Sologne, terre d'identité et de qualité, le magazine éco-innovation en Grande-Sologne sur Méga FM.
Bonsoir à tous et bienvenue dans La Sologne, terre d'identité et de qualité, le magazine éco-innovation de Méga FM en partenariat avec le syndicat mixte du pays de Grande-Sologne. Ce soir, nous allons nous intéresser à la communauté de communes Sologne des Rivières et plus particulièrement aux actions qui y sont menées, notamment en matière de politique touristique et d'accueil, petite enfance, enfance et jeunesse. Avec nos invités ce soir, Jean-Pierre Albertini, président de la communauté de communes Sologne des Rivières et maire de Salbris. Jacques Laure, premier vice-président de la communauté de communes, chargé des affaires générales et maire de Pierrefitte-sur-Sauldre, et Brigitte Girard, directrice du service Petite Enfance, Enfance et Jeunesse. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Alors, on va commencer tout de suite avec vous, Jean-Pierre Albertini, maire de Salbris, sur la présentation un petit peu de cette communauté de communes, Sologne des Rivières. Le nom fait rêver, finalement.
Oui, c'est un choix collectif en fait. Hein. On s'est posé beaucoup de questions sur la nature du nom, puis on s'est aperçu malgré tout qu'une partie du territoire de la Sologne était traversée par la rivière la Sauldre, avec un certain nombre d'affluences, qui nous a donné cette idée de dire, après tout, il y avait déjà la Sologne des Étangs. Alors comme le nom Sologne des Étangs était déjà pris en compte, on s'est dit qu'après tout, puisqu'il y a aussi une dynamique autour de l'eau, parlons des rivières. Et je crois que ça a été accepté d'une façon tout à fait collégiale il y a quelques années lors de la création de celle-ci. On avait fait un vrai travail,
de concertation pour trouver le nom.
Y compris un travail relatif au logo qui tourne autour de cette communauté de communes.
Alors cette communauté de communes, donc c'est 8 communes qui sont réunies.
C'est 8 communes qui correspondent sensiblement au canton de Salbris en gros, moins Saint-Viâtre et Loreux qui maintenant a rejoint la communauté de communes du Romorantinais et du Monestois. Donc nous sommes 8 communes et aux alentours de 12 500 habitants. Mmh. 40% sur le bourg-centre et l'ensemble réparti sur les villages et les communes alentours.
D'accord. Alors là, ce soir, on est précisément à Selles-Saint-Denis, en fait, le siège de la communauté de communes. Mais ça regroupe donc Salbris, vous l'avez dit, Pierrefitte-sur-Sauldre, Souhem.
Oui.
Marcy-Angot, La Ferté-Imbault, Treillet et Orsay.
Et Selles-Saint-Denis.
Et je l'ai précisé, Selles-Saint-Denis. Oui, oui.
Naturellement.
Nous sommes effectivement ce soir. Comment ça se passe en fait une communauté de communes? Comment ça fonctionne en fait?
Alors bon, c'est l'addition des souhaits de l'ensemble des communes de façon à, dans une certaine mesure, faire en sorte de trouver les capacités de faire ce que chacun ne peut pas faire de son côté. Bon, c'est la définition propre aux communautés de communes. C'est l'esprit, en tout cas, de la loi, le fait de dire rassemblons-nous de façon à pouvoir mettre en œuvre un certain nombre d'équipements, un certain nombre de services qu'une seule commune aujourd'hui n'est plus en mesure de réaliser. Mmh. Mais bon, j'ajoute tout de suite que c'est encore un process qui est très évolutif et nous ne sommes pas arrivés encore au terme de ce qu'on est supposé justement faire. On a des problèmes de taille. Le propos aujourd'hui est lié à la restructuration, hein, puisqu'il y a une commission départementale de coopération intercommunale qui est en train de travailler sur le fait de restructurer, le cas échéant d'améliorer aussi les périmètres de ces communauté de communes. Donc c'est encore un aspect pour l'instant transitoire.
D'accord. Et depuis combien de temps existe-t-elle?
Le 1er janvier 2004.
D'accord. Donc il y a quand même un certain recul.
Il y a un certain recul avec plusieurs, malgré tout, plusieurs étapes. En tout cas, deux grosses étapes. Une première étape de 2004 qui elle-même est le fruit d'une réflexion qui était bien antérieure. Hein. Jacques, qui est près de moi, pourrait en témoigner. Cette première partie de l'histoire va en gros de 2004 à 2008 et c'est un petit peu une forme d'apprentissage qui consiste à se doter des compétences obligatoires, hein, développement économique, etc. et simplement de travailler autour de celle-ci de façon à essayer de mettre en œuvre une politique de développement et d'articuler un petit peu d'abord nos façons de faire entre nous, nos cohabitations, commencer à apprendre à se connaître, déterminer les véritables compétences qui sont nécessaires pour le développement de la communauté de communes, et ça, cette période, et puis déterminer aussi les fiscalités, la façon de faire des fiscalités, qui au départ sont relativement simples, parce qu'on était parti sur les fiscalités additionnelles, et cette période va de 2004, de la création, jusqu'à 2008. À partir de 2008, on commence une réflexion d'ailleurs à l'intérieur même de ces 4 ans, consiste à dire maintenant on va élargir le domaine de nos compétences. Arrive la petite enfance, le tourisme et tout ce qui tourne autour de cela, qui va être développé dans cet entretien. Et on passe là aussi à une fiscalité beaucoup plus concentrée, puisque on passe à la taxe professionnelle unique. Et donc depuis 2008 jusqu'à maintenant, on est dans ce cadre de régime, avec tout ce que ça comporte comme problème, hein. Ça n'a pas été sans difficulté, il reste encore un certain nombre de problèmes à traiter, mais bon, encore une fois, c'est un domaine qui est évolutif, ça n'est pas quelque chose de totalement fixé, et je pense qu'il faut surtout se rappeler que tout ça se passe dans des temps historiques courts. En réalité, on passe de culture de village, on passe de culture de commune à une culture beaucoup plus collective, et tout ça, ça se passe en quelques années, au bout du compte. Et quand on regarde un petit peu à l'extérieur, c'est un petit peu le constat qu'on peut faire, on s'aperçoit que tout ce qui fonctionne le mieux, les intégrations les plus évidentes, sont quand même le fait des communautés de communes les plus anciennes, en règle générale. Et je crois que là, aujourd'hui, on est encore dans cette période où on n'a pas fini l'apprentissage de la connaissance entre nous. Il y a des conflits, il y a des problèmes, il ne faut pas les nier, il ne faut pas les mettre de côté. Le propos, c'est effectivement d'en arriver à bout, de les traiter, et de ne pas les traiter simplement sur un registre affectif ou politique. Politicien, il faut les traiter aussi selon la règle, selon la loi, selon... des sujets qui sont souvent assez durs à mettre en œuvre, assez compliqués à mettre en œuvre. On a beaucoup à apprendre encore.
Bien sûr, mais c'est en perpétuelle évolution aussi, et c'est ce qui fait que c'est dynamique en même temps.
Alors c'est dynamique, ceci dit, pour ce qui concerne la communauté de communes de la Sologne-des-Rivières, cette évolution est largement perturbée par des problèmes à caractère économique qui sont extrêmement lourds, puisque on est au cœur ici des déstructurations industrielles de la fin du siècle dernier qui perdurent encore maintenant et dont les conséquences sont encore mesurables très nettement. Et ce qui fait qu'en effet, nous n'avons certainement pas obtenu les résultats économiques que nous souhaitions avec tout ce que ça comporte en matière de difficultés pour traiter les problèmes au quotidien et puis ne serait-ce que regarder les problèmes sur le plan des budgets, sur le plan financier. Donc, c'est-à-dire que la volonté de faire, elle existe. L'enthousiasme, il existe aussi, mais les moyens à mettre en œuvre en face ne sont pas à la hauteur de nos ambitions. Je peux citer juste un exemple. On a un véritable problème aujourd'hui lié à la reconstruction d'un équipement absolument nécessaire qui est par exemple le centre nautique, une piscine, et on n'a manifestement pas aujourd'hui les moyens financiers de la mettre en œuvre. Ça pose un énorme problème. Et on peut quand même dire assez clairement que cette situation économique, c'est-à-dire le retour en matière de recettes liées au développement économique, n'est pas encore pour demain et qu'il faut encore qu'on s'y accroche largement. C'est le principal de nos soucis. Bon, après, monsieur le premier vice-président et puis Brigitte, qui sont auprès de moi, vont pouvoir le confirmer en parlant des sujets qui sont plus particulièrement sujets dont ils s'occupent. Il y a quand même un certain nombre de réussites sur cette communauté de communes, et c'est vrai que Jacques est en train de développer une politique autour du tourisme qui semble intéressante et qui est un élément, encore que... Je dirais qu'il ne faut pas oublier l'industrie derrière tout ça. Le tourisme est un élément important de développement économique, mais que notre richesse était quand même structurée autour. Là, on est dans une Sologne qui était une Sologne à caractéristiques industrielles. En matière de services, on a fait transfert de compétences autour de la jeunesse et de la petite enfance. Et je dois reconnaître que on reconnaît d'ailleurs que c'est quelque chose d'important.
Quand on dit transfert de compétences, c'est-à-dire que tout ce qui était autour de la jeunesse n'était pas une des compétences qui était en gros imposée par le dispositif de communauté
de communes. Au départ, non. Et nous avons souhaité, en tout cas, moi, j'avais souhaité très clairement que les dispositifs, on ait une structure autour de Salbris qui existait et des structures existantes dans les communes d'ailleurs. On a tout rassemblé. Et avec des formations, avec la mise en œuvre de moyens communs. Et pour ce qui me concerne, c'était effectivement un problème identitaire. Je crois que structurer une communauté de communes autour des services était quelque chose qui était relativement important. Bon, c'est pas si simple, hein. On a encore des problèmes d'image, on a encore des problèmes de relation de la population, de nos administrés par rapport à l'identité communautaire. Mais je crois que ça, c'est assez banal, hein. Mmh. C'est un petit peu partout. Mais s'agissant de la communauté de communes de la Sologne-des-Rivières, je pense que personne ici me contredira. Le travail réalisé et cette opération autour de la petite enfance et de la jeunesse est quelque chose d'extrêmement intéressant qui maintenant fonctionne et qui est un élément positif de cette communauté de communes.
Et puis qui répond certainement à un fort besoin, je suppose. Alors, je peux me tourner vers vous directement, Brigitte Girard, puisqu'on est sur cette thématique-là. En termes de politique d'accueil, en tout cas, de la petite enfance, enfance et jeunesse, parce qu'en fait, ça ratisse large, finalement.
Oui, tout à
fait. C'est un réel besoin.
Alors, le passage de compétences s'est fondé, effectivement, tout autour des besoins des familles. Mmh. Donc, ce passage de compétences s'est fait en 2008. Donc on l'a en fait basé, l'objectif c'était un maillage du territoire. Ce qu'on voulait c'était donner aussi une équité aux 8 communes qui étaient sous l'égide de la communauté de communes. Donc on répond actuellement aux besoins de tout ce qui est hors scolaire,
oui.
Voilà, aux besoins des enfants de 2 mois et demi à 18 ans sur l'ensemble du service. Donc, pour donner une image, sur l'année 2012, on a eu 650 familles et on a répondu aux besoins de 1000 enfants ou 1000 jeunes. Voilà.
D'accord.
La totalité du service.
C'est quand même un chiffre important.
C'est un vrai chiffre important, effectivement.
Alors, ceci dit, ça ratisse tellement large qu'on n'a pas forcément les mêmes besoins pour la petite enfance, toute petite enfance, à partir de 2 mois et demi. En gros, voilà, c'est le mode de garde, hein, finalement, du bébé, aux adolescents. Oui. Comment ça se gère, ça, en fait? Il faut du personnel aussi qui soit formé. C'est lourd comme apporté.
Alors, du coup, au passage de compétences, on a basé ce service sur les 8 communes. On a 4 pôles de travail, d'activité. Donc, il y a un pôle qui est la ville de Salbris, le bourg-centre. Et puis, après, les communes sont regroupées souvent par rapport au maillage de l'éducation nationale, de regroupement scolaire. Donc du coup, on a 3 autres pôles. On a Théillé-Orsay qui travaille ensemble, on a Souhem-Pierrefitte et on a Selsagny-La-Ferté-Imbault-Marcilly. Notre besoin, c'était en fait de mettre des accueils de loisirs, des périscolaires à disposition des familles et des enfants. Mm-hmm. Donc ce travail a été fait sur l'ensemble du territoire. Et le service est divisé en 3 secteurs, la petite enfance, l'enfance et la jeunesse.
Voilà. Et alors, donc depuis 2008, hein, vous œuvrez pour le constat maintenant, avec un petit peu de recul aussi. C'est plutôt positif, vous l'avez dit.
Pour moi, voilà, en tant que responsable de ce service, je trouve que c'est très positif. Alors, il nous a fallu un certain temps. 4 ans, c'est vraiment le temps qu'il nous a fallu, en fait, d'abord pour apprendre tous à travailler ensemble, puisque sur notre secteur, on a des accueils de loisirs, par exemple en enfance, on a des accueils de loisirs territoriaux, mais on a aussi 2 accueils de loisirs associatifs qui bénéficient d'une subvention et dont avec lequel on travaille ensemble. Donc il a fallu d'apprendre à se connaître, à se reconnaître. Mm-hmm. Donc maintenant c'est fait, tous les directeurs font des réunions ensemble, etc.
À travers tout ça, le regard qu'on a la population, ça a été un soulagement en fait.
Alors je sais pas si on est encore, c'est certainement un travail de communication qu'on aura à faire au niveau du service. Je sais pas si on est vraiment encore complètement reconnu. La population a des fois des difficultés à venir directement et à nous reconnaître, même s'ils viennent dans les services, à reconnaître que c'est un service communauté de communes. L'identité communauté de communes, on a encore un gros travail de communication à faire ensemble.
Oui, voilà. Oui. Mais ceci dit, les réponses, en tout cas aux besoins, ont été apportées.
Oui, absolument. Les réponses aux besoins des familles, on est, je pense que l'on peut dire, je pense pas que les élus me contrairont, on est quand même un territoire qui avons un accueil extrêmement développé et tout à fait innovant sur l'ensemble de ses compétences.
Et est-ce qu'on peut dire que ça a été aussi porteur de création d'emplois? Il a fallu certainement engager des personnes avec des formations particulières aussi, formation petite enfance, c'est pas rien.
Alors si vous voulez, on peut faire un petit peu un descriptif. En petite enfance est regroupé sous ce terme petite enfance un multi-accueil qui accueille 59 enfants. Pour faire vivre ce multi-accueil, il y a 21 agents. Ils sont puéricultrices, auxiliaires de puériculteurs, éducateurs. On a également dans cet accueil 2 apprentis. Ça, c'est vraiment une volonté des élus. On a tous les ans 2 apprentis ou CAP petite enfance ou éducateurs de jeunes enfants qui sont formés au sein de nos structures. Et on a aussi actuellement des contrats à venir. La CCSR a signé dans le nouveau processus 3 contrats à venir. On prend des jeunes pour se former sur 3 ans.
D'accord.
Donc en petite enfance, oui, ça correspond à 21 emplois d'agents territoriaux.
Mm-hmm.
Voilà. Il y a aussi le relais assistante maternelle qui est rattaché à ce service. Alors le relais assistante maternelle est itinérant et donc il toutes les matinées, il va dans tous les pôles d'activité répondre aux attentes des assistantes maternelles mm-hmm. et faire des activités d'éveil pour les enfants.
Pour les tout petits.
Voilà, qui ouais. sont rattachés. Voilà.
Donc ça veut dire qu'en fait à n'importe quelle période de l'enfance, on a un accueil, on a un dispositif qui permet quand même aux parents d'être un petit peu voilà, un peu tranquille finalement.
Oui,
on peut s'installer dans cette communauté de communes, on sait que si on a des enfants, il y a un service adapté.
C'était la volonté des élus quand on a créé et fait ce passage de compétences que en fait on se sert de vitrine de ce territoire, de tout ce maillage et de toutes ces activités pour que si les entreprises voulaient s'implanter sur notre territoire, tout leur cadre ou tout leur personnel soit rassuré.
Bien sûr.
Et c'est très important
on
en
est
fait
bien d'accord.
Voilà d'associer la vie professionnelle et la vie familiale.
Complètement. Peut-être un mot, monsieur Albertini, sur voilà, c'est l'image d'un quelque chose qui s'est bien passé.
Brigitte a parfaitement résumé l'esprit dans lequel on s'est inscrit dans cette politique de petite enfance. Et effectivement, elle l'a souligné à l'instant, l'un des aspects, au-delà des problèmes d'identité, de renforcement de l'identité communautaire, c'est encore effectivement une partie à gagner, ça, parce que c'est l'une des problématiques solognottes, qui est l'éloignement entre les communes, qui fait que sur le plan de l'identité, c'est un petit peu plus compliqué que lorsqu'on est rapprochés
temps,
les uns des autres. Mais il est certain que la volonté des élus, c'est aussi celle-ci, dans le cadre justement des difficultés économiques que nous rencontrons, c'est de se doter des outils qui permettent, le cas échéant, à ce que les industriels, à ce que les donneurs d'ordre soient en capacité de pouvoir proposer aux gens qui viennent chez eux, qui viennent travailler chez eux, de disposer des services dont ils ont besoin. Que ce soit celui-ci, que ce soit ensuite les services à caractère sportif, que ce soit l'enseignement, c'est quand même l'un des vecteurs essentiels du développement économique. Et aujourd'hui, un industriel, un patron, c'est l'une des premières questions qu'il pose. Presque à la limite avant de savoir s'il y a un local disponible, avant de savoir s'il y a effectivement un terrain. Il y a toujours une solution de ce côté-là, c'est de dire mais est-ce que mes gamines vont pouvoir être prises en charge le matin, la journée, le mercredi, pendant les vacances, comment vont-ils aller à l'école? Ça me paraît essentiel. Le problème derrière, si vous voulez, c'est que c'est un énorme effort. Puisque ça correspond à des contraintes techniques, Brigitte pourrait le dire un peu mieux que moi, mais le domaine de la petite enfance est quand même lié à
des normes
très précises en matière d'encadrement, au-delà desquelles on ne peut pas
déroger
du tout. Et donc, à partir de là, ça demande un investissement financier important, et c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, dans le sens où le développement de ce type d'environnement est aussi lié à une prospérité économique, et là, aujourd'hui, on est borderline, on est toujours en limite, mais on tient énormément à ce que ce service continue, parce que c'est aussi le vecteur, si on l'abandonne demain, si on a des restrictions, c'est quelque part un inconvénient supplémentaire qu'on doit supporter, un impact par rapport à l'installation éventuelle d'entreprise. Et ça, pour nous, c'est quand même essentiel, parce que le premier vecteur et la première compétence de cette communauté de communes, comme toutes les autres d'ailleurs, c'est le développement économique.
Exactement. Donc peut-être un dernier mot, Brigitte Girard, justement sur le côté réglementation. On sait que c'est très réglementé, il y a des normes très très précises. Ça peut être un frein par rapport à l'évolution du dispositif d'accueil que vous avez mis en place.
Non, parce que les normes sont tout à fait en corrélation avec la sécurité. Et, on n'a pas des normes qui ne correspondent pas à la qualité et vraiment à la volonté qu'on veut mettre au cœur de métier et de nos actions. Tout est vraiment en corrélation. Par contre, effectivement, si on veut répondre sur l'ensemble du territoire et couvrir tous les domaines, ça demande effectivement, notre service était composé à peu près de 40 personnes. Donc là, je rejoins complètement notre président sur le coût de fonctionnement de ce service.
Voilà.
Mais ce n'est pas les normes qui nous posent ce souci. C'est plutôt répondre aux besoins et à l'ensemble des besoins de la population.
Et on aura compris, du coup, le rayonnement que cela implique.
Voilà.
Je vous propose de marquer une petite pause et puis on abordera le dispositif, le côté touristique aussi, qui n'est pas à négliger, en tout cas, sur cette communauté de communes Solognes-des-Rivières. À tout de suite.
18h30, 19h, le magazine Éco-Innovation en Grande-Sologne sur Méga FM.
Suite. suite de l'émission La Sologne, terre d'identité et de qualité, en direct du siège de la communauté de communes Sologne des Rivières à Selles-Saint-Denis. Je suis toujours en présence de Jean-Pierre Albertini, qui est le président de la communauté de communes Sologne des Rivières et maire de Salbris. Jacques Laure, premier vice-président chargé des affaires générales et maire de Pierrefitte-sur-Sauldre. Et Brigitte Girard, directrice du service Petite Enfance, Enfance et Jeunesse. Alors, on a évoqué en première partie d'émission un petit peu la présentation de cette communauté de communes et puis des premières actions qui ont été faites, transfert de compétences notamment sur l'accueil enfance, petite enfance, enfance et jeunesse. On va revenir un petit peu avec vous, Jean-Pierre Albertini, sur ces fameuses compétences un peu obligatoires liées à la communauté de communes. Alors il y en a obligatoires, il y en a un peu optionnelles. Comment ça se définit en fait? Expliquez-nous.
Bah, c'est-à-dire, ça se définit, il y a des règles, hein, qui sont les règles générales des communautés de communes, mais ça concerne l'ensemble du territoire national, donc il y a des compétences sur lesquelles on ne peut pas déroger, notamment le développement économique et puis l'aménagement de l'espace. Alors l'aménagement de ça, c'est relativement large, hein, ça va des PLU, en passant par les SCOT, les schémas de cohérence territoriale et tous les outils qui sont aujourd'hui des outils de développement territorial. Mais là, c'est quelque chose qui est relativement long à mettre en route et ça n'est pas aussi simple que cela. Mais bon, c'est une compétence obligatoire. Mais le fil rouge, c'est bien sûr le développement économique. C'est absolument nécessaire de le prendre en compte. Et c'est un sujet d'importance partout, certes, mais plus particulièrement chez nous, à cause justement de ces problèmes de déstructuration industrielle. Et il y a ici, aujourd'hui, à la fois des territoires qui sont des territoires en déshérence, c'est-à-dire qui sont des friches industrielles, lourdes, grosses, puisque c'est des friches issues des territoires de défense, et il y a aussi un certain nombre de zones industrielles qui sont des zones, vous êtes d'ailleurs là sur le site du jardin d'entreprise, qui est l'une de ces zones de développement économique, dont vous pouvez voir que au-delà des quelques entreprises qui sont installées, il y a aujourd'hui guerre de développement en vue. Bon, il y a nous concernant pour l'essentiel la grosse restructuration autour de l'ex-GIAT, l'ex-territoire du GIAT qui a fait l'objet qui est sur la commune de Salbris, un territoire issu des industries de défense dont l'activité s'est terminée à la fin de l'année 2000 sensiblement. Et qui est un territoire en deux zones différenciées, distantes de quelques kilomètres, l'une de 80 hectares et l'autre de 25 hectares. Cette zone a fait l'objet de process d'aménagement et avec l'esprit d'y installer une activité à caractère extrêmement structurant. Et à l'époque, il avait été question d'y installer une entreprise logistique qui devait effectivement, par sa taille, véritablement redonner une dynamique à notre environnement. On a tous travaillé les uns et les autres sur ce sujet. Le département de la recherche s'est largement investi sur le sujet en dépensant beaucoup d'argent, de l'argent public, hein, évidemment, mais pour des raisons qui sont liées à une caractéristique propre un peu à la Sologne, qui fait qu'à chaque fois qu'on lève le petit doigt, il y a des gens qui posent des recours en face, l'affaire ne s'est pas faite, ce qui entraîne une continuité de cette déstructuration relativement longue. Là, aujourd'hui, on se retrouve avec toujours ce territoire sur lequel il a été dépensé beaucoup d'argent. Et ce territoire se trouve encore à l'état de friche industrielle. Et les projets n'arrivent pas aussi rapidement que cela, ce qui fait qu'on peut considérer que l'échec de Prologis, économiquement parlant, pose un problème sur l'ensemble des finances de la communauté, la ville de Salbris, naturellement, sur un temps long de relativement une bonne dizaine d'années. C'est-à-dire pendant 10 ans, on n'a pas les ressources auxquelles on aurait eu, le cas échéant, droit en fonction de cette installation. Ce qui est un des éléments majeurs des problèmes rencontrés aujourd'hui sur l'ensemble communautaire, sur le périmètre communautaire. Encore une fois, je reviens sur ce que j'évoquais tout à l'heure, pas de recettes, pas d'espoir de recettes à court terme. Ça veut dire à la fois restriction, soit on raisonne sur l'impôt, et là auquel cas on reporte sur les administrés les problèmes d'absence d'argent, soit on essaie de trouver un certain nombre d'autres activités, sauf qu'elles n'arrivent pas comme cela. Et on dispose aujourd'hui sur ce territoire, qui pourtant est d'une situation extrêmement favorable en termes de communication, avec la voie ferrée, l'autoroute, la Nationale 20, un certain nombre de transversales en matière de transport en commun, je pense notamment au BA, on a une excellente situation, on n'est pas très loin des grands centres urbains, et on a d'énormes difficultés à retrouver, à réécrire une histoire économique, alors qu'elle est absolument nécessaire, faute de quoi je ne vois pas très bien comment on va pouvoir continuer et à développer les équipements, ce qu'on évoquait tout à l'heure, et à trouver des solutions. Alors Jacques va maintenant en parler sur le plan des espoirs qu'on a de développement. Il y a effectivement l'aspect touristique. De mon point de vue, il n'est pas suffisant pour effectivement retrouver la prospérité ancienne, tant sur cette dimension que sur les emplois qui y sont proposés. Hein. Autrefois, on avait des emplois extrêmement structurés, des emplois de très bon niveau, et c'est autour de cela que la prospérité de l'environnement dans lequel on est, le bassin de vie, s'est construite. Mais ceci dit, aujourd'hui, les efforts faits autour du tourisme sont absolument nécessaires, parce que dans un premier temps, ils sont peut-être l'une des hypothèses qui permettent de se raccrocher et de retrouver un certain nombre de possibilités.
Et ça fait partie des compétences aussi.
Ça fait partie des compétences.
Obligatoires.
Mais c'est lié. C'est une compétence tourisme propre, qui est une compétence aussi économique quelque part.
Alors je me tourne vers vous. Du coup, Jacques Laure, on rappelle, vous êtes chargé des affaires générales, premier vice-président de la communauté de communes Solonne-des-Rivières et maire de Pierrefitte-sur-Saulne. Alors, politique touristique en développement? Visiblement.
Alors, politique touristique en développement, oui. Quand on a évoqué donc les compétences, c'est vrai qu'on a voulu prendre le tourisme dans nos compétences, essentielles, parce que le tourisme doit prendre une part importante au développement économique. Donc, je reviens pas sur les difficultés qu'on a eues. Une fois cette compétence prise, il a fallu tout faire, c'est-à-dire donner une forme juridique et comment se débrouiller pour mettre en place cette politique touristique. Nous avons choisi une régie avec une autonomie financière liée à la communauté de communes. C'est-à-dire que la politique touristique est imaginée par le conseil communautaire avec l'aide d'un conseil d'administration qui donne son avis sur les grandes lignes. Mais c'est le conseil communautaire qui initie cette politique. Et nous avons recruté deux professionnels sur l'office de tourisme que nous avons fait classer sur un office 2 étoiles. Donc, maintenant, il a fallu se mettre au travail. Et le premier travail, ça a été naturellement de faire un recueil assez conséquent sur l'offre touristique de la communauté de communes. Donc c'est un guide touristique traditionnel avec tout ce qu'on rencontre dedans, c'est-à-dire le patrimoine, les activités, etc. Et nous avons créé un site, là encore, un site conséquent, dans ce site, ils sont développés aussi bien les chemins de promenade et randonnée, le patrimoine, les curiosités, les activités. C'est un site extrêmement complet et la personne qui va venir chez nous y trouvera tous les renseignements susceptibles d'avoir. Ça, c'était sur le plan local. Par contre, on ne peut pas dissocier la politique touristique de la communauté de Solonne-des-Rivières avec la commune touristique de Sologne sur son ensemble. Et lorsque l'on parlait avec le comité départemental de tourisme ou avec le comité régional de tourisme sur le tourisme en Sologne, et à chaque fois on avait les mêmes réponses, oui, la Sologne est intéressante au point de vue tourisme, oui, il y a des possibilités, par contre, vous n'êtes pas structuré. À qui s'adresse-t-on en Sologne pour imaginer le tourisme? Actuellement, il n'y a personne. Ça, c'est une première chose. Et puis, vous savez qu'il y a eu un très grand rassemblement, le rassemblement mondial des deux chevaux, à Salbris, qui a amené une population très, très importante. Et à cette occasion-là, plusieurs offices de tourisme, plusieurs comités départementaux étaient sur place. Et, grande surprise, ils ne se connaissaient pas. Et ils ont fait connaissance au cours de cette manifestation. Donc, il y avait deux choses, on s'est dit, mais c'est une aberration sur notre territoire. Donc, la première chose à faire, ça a été de créer un réseau sur tout ce qui existait déjà. Donc, les offices de tourisme ont été mis en réseau, avec l'UDOTSI, etc. Et ce qui a débouché récemment sur la première bourse touristique de Sologne, réunissant tous les offices de la Sologne, du Loir-et-Cher, mm-hmm. du Cher et du Loiret. Et c'était la première fois que ça existait. Et je crois que ça a été une réussite, au moins pour les participants. Donc, sur le secteur, existe maintenant, si vous voulez, une trame. Hein. Mais maintenant que le réseau est constitué, il faut créer la structure qui va porter ce tourisme en Sologne. Alors, en conversant avec le conseil régional, me dit oui, c'est vrai, mais dans certaines régions, partout où il y a un PNR, la structure.
Alors, un PNR, on peut peut-être.
Un parc naturel régional, comme il existe dans le Perche, un petit peu partout. Là, c'est facile à porter parce que, naturellement, c'est cette structure qui porte le tourisme. Nous, on n'en a pas. Donc, il faut imaginer cette structure. Donc, tout est à faire. Donc, nous allons rencontrer, dans un avenir très, très proche, le comité départemental Loir-et-Cher, Cher, Loiret, en association avec le comité régional, pour imaginer cette nouvelle structure et enfin faire une politique touristique sur la Sologne entière, digne de ce nom.
Et dans l'idéal, vous l'imagineriez comment, cette structure ?
Ah, alors comment je l'imaginerais ? Je crois qu'on ne peut pas se passer des trois comités départementaux. Mmh. Hein. Alors, est-ce qu'on pourrait se diriger vers un syndicat mixte, éventuellement, en liaison avec les communautés de communes et les pays. Hein. Ça pourrait être le pays, le Grand Sologne, qui pourrait porter cela. Mais pour l'instant, le pays n'a pas la compétence. Ce sont les communautés de communes. Donc c'est assez, c'est très très compliqué. Quand il y a un département, c'est compliqué. Quand il y en a trois, c'est encore,
c'est plus,
encore
difficile.
Plus difficile. Et puis on se heurte aussi à une multiplicité d'offices de tourisme. Vous savez qu'avant, il y avait les offices de tourisme, les syndicats d'initiative dans chaque village, etc. Bon. Et on voit bien que maintenant, c'est une affaire de professionnalisme. On ne peut plus imaginer, autant le travail des bénévoles a été essentiel ces quelques années, maintenant on ne peut plus développer puisque on parle d'une compétence économique, on ne fait pas de l'économie avec simplement du bénévolat. Et à mon sens, les offices de tourisme qui existent actuellement sont encore trop nombreux. Je crois qu'il faudrait regrouper sur la Sologne deux ou à la limite trois offices, gros offices, gérés par des professionnels, de grosses structures, avec des relais un petit peu partout, naturellement. Hein. Mais on ne peut envisager une politique inventive et percutante qu'à travers de grands offices qui couvriraient le territoire.
Et à l'heure actuelle, concrètement, pour le touriste qui a envie de découvrir la Sologne des rivières, comment ça se passe pour lui ?
Donc, il peut s'adresser à l'office donc directement où il y a deux professionnels. Il va sur le site qui est extrêmement complet parce qu'on s'aperçoit tout compte fait maintenant que le touriste qui veut aller dans une région, maintenant tout se fait par Internet.
C'est un biais effectivement.
Quand je dis tout, peut-être pas tout, mais on va arriver à cela. Donc, il faut avoir des outils extrêmement compétents. C'est pour ça que l'idée de faire un portail unique sur la Sologne est en train de germer. Que le touriste qui veut venir en Sologne, voilà, il aura ce portail d'entrée sur la Sologne. Et également, une marque Sologne sur le territoire. Mais pour aboutir à la marque, il y a tout un travail complémentaire. Alors on le voit actuellement, si vous voulez, dans notre secteur sont développées la marque Val de Loire, ce qui est normal avec l'apport des châteaux, etc., et la marque Berry. Berry qui est sur toutes les ondes, etc. Mais de Sologne, point. On ne parle pas de la Sologne. Donc, il faut travailler.
Il faut abattre certains préjugés, en fait.
Il nous faut travailler essentiellement, donc se regrouper, qualifier l'offre aussi, car il s'agit pas de créer une marque, mais qu'est-ce qu'on va mettre derrière cette marque ? Donc, quelle est l'offre touristique qu'on va pouvoir apporter ? Et puis, pourquoi pas que cette marque déborde sur des produits autres que touristiques. Mais la Sologne, qui est internationalement connue, il faut quand même pas oublier que la Sologne, c'est le plus grand site européen de Natura 2000. Donc, il y a une importance considérable. Et je crois que jusqu'à maintenant, on n'a pas su vendre notre territoire. Alors, on va s'y atteler.
Alors, du coup, y a-t-il un calendrier d'exécution de ces diverses compétences, monsieur Albertini?
Non, on peut pas parler de calendrier aujourd'hui, dans le sens où, justement, on est encore une fois dans une période transitoire, puisque le propos, c'est le redécoupage du périmètre communautaire. Et tant que nous n'aurons pas effectué ce redécoupage de périmètres, et notamment des extensions des périmètres communautaires, parce qu'on s'aperçoit que dans un certain nombre de cas, et moi je pense sincèrement, tout le monde le sait ici, que nous ne sommes pas à la bonne échelle pour effectivement, dans des conditions économiques dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, répondre à l'ensemble des enjeux. Ça veut dire que, de mon point de vue, il va falloir raisonner. Et là-dessus, je reprends un petit peu, même si on a des divergences de point de vue par rapport à la nature de ces périmètres, je reprends un petit peu ce que dit la région concernant la notion de bassin de vie, et qu'il va bien falloir qu'on raisonne à un moment ou à un autre, parce que je sais bien que c'est un espèce de mot générique que tout le monde utilise, mais le problème essentiel, c'est bien la mutualisation des moyens. Or, on n'a pas encore effectué d'une façon raisonnable cette mutualisation des moyens entre les égos des uns, les visions politiques des autres. Et je parle pas là à l'échelon de la communauté de communes, je parle sur un plan général. Et je crois que là, il y a une véritable révolution culturelle à mettre en œuvre et de bien se rendre compte que de toute façon, la situation économique dans laquelle on évolue aujourd'hui est une situation qui va durer. Je crois que je suis pas mauvais prophète en disant cela. Je suis pas quelqu'un de pessimiste, moi. Mais très franchement, il faut quand même en être conscient et qu'à partir de là, il est absolument nécessaire qu'on ait une vraie réflexion. J'ai surtout tendance à penser qu'on est un peu frileux sur ce domaine et que j'aimerais bien qu'on aille un petit peu plus vite et qu'on se rende bien compte largement de la nécessité absolue de se trouver avec de bonnes échelles, reprendre nos compétences, de regarder tout cela et de vérifier quels sont les moyens dont on dispose dans les années qui viennent, parce que les choses vont vite maintenant. Mais je reprends juste un petit peu, je suis complètement en phase avec ce que dit Jacques sur le plan du tourisme, et notamment la difficulté qu'il y a. Et c'est vrai qu'on peut regretter, j'étais pas moi favorable, tant que justement on n'avait pas structuré nos territoires à l'histoire du PNR. Mais je crois que Jacques a raison sur ce plan-là. Il faut bien qu'on trouve le moyen d'avoir une vraie structure qui soit en mesure et avec la bonne échelle pour pouvoir fédérer les compétences des uns et des autres. Mais je peux pas ne pas dire non plus concernant la Sologne que l'un des problèmes de la Sologne, c'est évidemment quelque chose qui, sur le plan positif, est extrêmement connu sur le monde entier, que c'est effectivement le plus grand territoire Natura 2000, mais qu'il y a une problématique au niveau du foncier sur lequel il va bien falloir réfléchir. C'est un énorme territoire de propriété privée qui sont destinés aux loisirs maintenant, dont l'agriculture s'est éloignée petit à petit, et qu'il c'est pas une remise en question de la propriété privée, c'est pas le propos, au contraire, c'est parfaitement honorable, c'est pas le sujet, mais il y a quand même une réflexion à faire autour de cela, parce qu'on ne peut pas non plus faire du développement si on n'a pas la capacité de pénétrer les territoires, et notamment leurs valeurs en matière écologique et environnementale. C'est un très beau territoire, le territoire solonio, mais il faut qu'il soit à la disposition de tout le monde.
C'est ça. En tout cas, ce qu'on peut entendre de tous vos témoignages, c'est qu'on n'a pas fini d'entendre parler, en tout cas, de tous ces débats, et puis que tout est encore en réflexion, et que je pense qu'il y a encore pas mal d'heures de concertation à prévoir. Je pense qu'on y reviendra d'ici certainement prochainement quelques temps.
Avec plaisir.
Merci beaucoup à tous les trois, Jean-Pierre Albertini, Jacques Laure et Brigitte Girard, de tout cet éclairage en tout cas. Donc je vous rappelle que nous étions au siège de la communauté de communes Sologne-des-Rivières à Selles-Saint-Denis. Merci beaucoup. Sachez que vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission sur notre site www.megafm.fr ainsi que sur le site du syndicat mixte du pays de Grande-Sologne. Excellente soirée sur MegaFM.
C'était La Sologne, terre d'identité et de qualité, le magazine éco-innovation en Grande-Sologne de MegaFM.